Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Compostelle, ce seul mot suffit à évoquer aujourd'hui bien des choses. Des marcheurs par centaines de milliers à travers l'Espagne, la France et l'Europe. Marchant comme pour répondre à une société qui s'est assise, comme le dit l'écrivain Sylvain Tesson, récent prix Renaudot. Un patrimoine culturel extraordinaire, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un voyage dans le temps et à travers l'histoire européenne, mais aussi l'une des grandes réalités européennes justement, une sorte de Thésée mais en marche, une foule de chercheurs de sens, faisant comme un pied de nez à une société que l'on dit devenue athée, quand elle est en réalité très portée sur les réalités spirituelles. Quoi de mieux en cette semaine de radio donc que de parler de ce trésor, à portée de chaussures, pourrait-on dire, dans notre beau sud-ouest. Compostelle, ce chemin extraordinaire, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, en cette semaine de Radio Don. Je vous rappelle, chers auditeurs, cette semaine, tout au long de cette semaine, nous avons besoin de votre soutien. Nous faisons particulièrement appel à votre générosité. Un seul numéro de téléphone pour cela, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Avec nous ce matin pour parler de Compostelle, Adeline Rucois. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire médiévale de la péninsule ibérique et auteur d'ouvrages sur Compostelle, entre autres, Le voyage à Compostelle paru aux éditions Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié en cette semaine de Radio Don de passer par les studios de Radio Présence. Vous êtes là pour quelques conférences et on nous a soufflé à l'oreille, alors à tout seigneur, tout honneur, c'est l'ACIR, donc cette agence, on va dire des chemins de Saint-Jacques qui officie à Toulouse, enfin qui est basée à Toulouse et qui officie dans toute la France et qui a chez nous une chronique qui nous a signalé votre passage. On en reparlera peut-être de l'ACIR. Le voyage de Compostelle, c'est donc le titre de votre dernier ouvrage. Il y a de multiples livres qui ont été écrits sur Saint-Jacques de Compostelle. Pour vous présenter davantage, qu'est-ce que vous diriez, vous, votre créneau sur Compostelle, quel est-il? C'est quoi? C'est d'abord l'historienne spécialiste de l'Espagne qui parle?
Oui, c'est de cette façon-là que j'ai abordé effectivement l'histoire du pèlerinage, en commençant au Moyen-Âge, puisque je suis médiéviste, mais en poursuivant jusqu'à nos jours, puisque le pèlerinage est vivant.
Alors, Saint-Jacques de Compostelle, on va essayer de repartir un peu de zéro. Pour vous, c'est peut-être repartir d'un petit peu loin. Mais on essaie toujours de se mettre à la place de ceux qui nous prennent peut-être pour la première fois ou qui ne suivent pas forcément les actualités, soit de la vie chrétienne, soit de la vie spirituelle. Compostelle, c'est d'abord un succès assez fou. On trouve des chiffres assez frappants sur ce sujet. Je voyais que dans les années 80, Saint-Jacques de Compostelle, c'était à peine quelques 20 000 pèlerins. Et aujourd'hui, on passe la barre des 300 000. On dit que c'est même plus de 10% par an. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce succès que vous connaissez certainement fort bien?
Mais ce succès, il étonne tout le monde. Effectivement, d'année en année, pendant longtemps, c'était les années jubilaires, quand la fête de Saint-Jacques le 25 juillet tombe à dimanche, c'est une année jubilaire, on peut obtenir des indulgences plénières en allant à Saint-Jacques de Compostelle. C'est au cours de ces années-là qu'on voyait tout à coup beaucoup plus de pèlerins. Et puis, depuis les années 2010, ça ne cesse d'augmenter d'année en année, en tenant compte du fait que les seules statistiques que nous avons sont celles de la cathédrale de Compostelle, c'est-à-dire celle des pèlerins ou marcheurs, si vous préférez, qui ont été demandés un certificat de pèlerinage. Or, il y en a beaucoup qui marchent sur les chemins et qui
ne sont pas comptabilisés.
Ne sont pas comptabilisés, ne sont pas encore arrivés ou ne sont pas comptabilisés ou font le chemin plusieurs fois et donc ne redemandent pas forcément une Compostella, un certificat.
Voilà, puisque alors parmi ces pèlerins, on peut citer aussi les nationalités. Les Espagnols sont en tête, les Latino-Américains, ça en surprendra peut-être certains, parce que ça fait quand même un peu loin. Les Américains, les Britanniques, les Français, ils n'arrivent pas en queue de peloton, mais enfin, le pourcentage est plus faible. Je crois que c'est 3000 à peu près qui partent du puits chaque année. Et de fait, j'avais lu dans un article de La Dépêche que Figeac, lui, eux, comptabilisait presque 15 000 personnes par an. Donc les chiffres, en effet, pourraient être encore augmentés. Est-ce que vous pourriez nous décrire aussi un peu ces chemins, parce qu'il y a, on va dire, il y a des grandes voies, mais après, quand on prend une carte de France ou une carte d'Europe, on a l'impression que c'est un maillage presque sans fin.
Mais actuellement, enfin, il y a deux ans, une carte des chemins de Saint-Jacques, balisée chemin de Saint-Jacques en Europe, a été dressée. Et elle arrivait au chiffre de 60 000 kilomètres de chemin dans toute l'Europe, balisé chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Traditionnellement, on dit qu'en France, il y a quatre points de départ, donc quatre chemins. L'un qui partait de Saint-Martin de Tours, l'autre qui partait de la Madeleine de Vézelay, un qui partait de Notre-Dame du Puy-en-Velay, et le dernier qui partait de Saint-Gilles ou Arles. Ça apparaît dans un texte du XIIe siècle. En fait, pendant toute l'histoire jusqu'au XXe siècle, il n'y a que le chemin dit de Tours, la Via Turonensis, ou le chemin d'Arles, la Via Egidiensis, qu'on appelle aussi Tolosana, celle qui passait par Toulouse, qui ont été parcourues par les pèlerins. Et puis, une fois arrivé en Espagne, quand le chemin va d'est en ouest...
Il n'y en a plus que deux gros, c'est ça ?
Il n'y en a plus qu'un seul.
Qu'un seul, ah bon,
il n'y en a jamais eu qu'un seul, parce que c'est symbolique. Le chiffre 4.
Je crois qu'il y en avait un qui passait plus au nord, qui suivait un peu plus...
Il a été inventé il y a une vingtaine d'années. Le chiffre 4 des quatre chemins qui mènent en France, en fait, c'est un chiffre symbolique. C'est pour dire que des quatre points cardinaux, on doit se diriger vers le grand sanctuaire qui est situé au Finisterrae, au bout de la terre, connu à l'époque, au bout de l'Europe, si vous voulez. Saint-Jacques symbolise l'espérance. Et donc, une fois qu'on marche vraiment dans le sens du soleil, en fait, du levant vers le couchant, il n'y a plus qu'un seul chemin, c'est celui qu'on appelle le chemin français.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi du sud-ouest ? Parce que nous, dans notre région, on est très gâtés. Voilà, il y a de nombreux lieux qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois qu'à l'échelle de la France, c'est à peu près 76, c'est ça ? Et il y en a quand même un certain nombre dans le sud-ouest. Alors, ce qui est classé aussi, vous pourriez en même temps le préciser. Parfois, ce sont des parties de chemin, et puis sinon, ce sont des édifices culturels ou religieux.
Oui, en 1993, l'Espagne a demandé le classement au patrimoine mondial du chemin français, c'est-à-dire tout le chemin, depuis la frontière de la France jusqu'au sanctuaire compostellan, avec 50 mètres de chaque côté. Cinq ans plus tard, 1998, la France fait inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, sous le nom « Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France », en fait, 71 monuments divers, et 7 tronçons de chemin.
Ce qui était un classement assez exceptionnel. Il est rare que j'ai cru comprendre qu'autant d'éléments patrimoniaux soient classés comme ça d'un seul coup.
C'est rare et c'est difficile à gérer, évidemment. Hein, puisque, pour vous donner une idée, il y a évidemment beaucoup de monuments dans le sud-ouest, puisque tous les chemins passent par le sud-ouest avant d'entrer en Espagne. Mais vous avez aussi le Mont Saint-Michel qui est apparu là-dedans. La cathédrale d'Amiens. Donc ça couvre un petit peu, c'est un peu hétéroclite, il faut bien le dire, cette inscription.
Alors parmi les raisons du succès, on va revenir après sur les motivations spirituelles, ou pas peut-être, sûrement, sur les motivations spirituelles et religieuses. J'ai cru comprendre que le succès que connaît aujourd'hui le chemin avait été aussi un peu aidé et accompagné. Je ferai une comparaison peut-être osée, j'espère ne pas choquer les auditeurs. Mais on dit parfois ça aussi de Lourdes, c'est-à-dire que les catholiques croient certes, ils n'y sont pas obligés, mais qu'il y a eu des apparitions, mais que le succès de Lourdes a tenu aussi à une manière d'envisager rapidement les pèlerinages et donc de faire en sorte que les lieux soient, on va dire, préparés pour accueillir, pour que ça devienne potentiellement un grand sanctuaire. Est-ce qu'on peut dire quelque part que le succès des chemins de Saint-Jacques, il a aussi été, on va dire, aidé. Je pense à quelques grandes dates, le pèlerinage donc de Jean-Paul II à Compostelle en 1982, les premières JMJ donc, en 1989, et puis après on pourrait parler justement des classements divers et variés, soit du Conseil de l'Europe, soit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ces aides spirituelles ou publiques ?
Que tout chemin de pèlerinage ou tout pèlerinage a toujours été aidé par des pouvoirs qu'on va appeler des pouvoirs publics, si vous voulez. Sinon, ça n'aurait jamais pu exister. C'est depuis le Moyen-Âge, on voit l'intervention des rois, des comtes, des ducs, de l'Église, parfois pour freiner, mais généralement pour aider. Il faut héberger les pèlerins, il faut faciliter leur passage. C'est un apport économique, évidemment, mais ça peut aussi créer des problèmes d'ordre public. Donc, il y a toujours eu des interventions publiques qui ont accompagné, ce n'est pas simplement je pars en pèlerinage parce que j'ai envie de partir. Il y a derrière ou à côté, si vous voulez, toute une organisation qui se met en place.
Voilà, qui n'est pas forcément, on va dire, choquante. C'est, on accompagne un mouvement. Alors, est-ce que ces rendez-vous que Jean-Paul II, par contre, a donné d'une certaine manière à l'Église, en tout cas cette visite en 82 et ce rendez-vous en 89, là, on voit quelque part un peu une origine d'un certain renouveau?
Le renouveau avait commencé dans les années 1950, avec l'arrivée sur le siège épiscopal, archiépiscopal, pardon, de Compostelle, d'un grand archevêque qui est resté là pendant presque 25 ans, Fernando Quiroga Palacios, et qui a beaucoup fait pour son siège. Mais il est vrai que la visite du pape a donné une dimension mondiale au pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Il y avait déjà des pèlerins qui allaient, mais l'appel qu'il a fait à l'ensemble de l'Europe et à la jeunesse de l'Europe de retrouver ses racines chrétiennes et de remarcher vers Saint-Jacques, en plus c'était la première fois qu'un évêque de Rome visitait le tombeau de l'apôtre Jacques en Espagne. Ça a été très important, effectivement c'est le coup d'envoi. Après il y a eu, 3 ans plus tard, il est allé en 82, une grande exposition en Belgique, dans le cadre des Europalia, intitulé Santiago de Compostela, 1000 ans de pèlerinage européen, qui a montré la dimension européenne du pèlerinage, et ça a débouché sur la déclaration des chemins de Saint-Jacques de Compostelle comme itinéraire culturel européen par le Conseil de l'Europe en 1987.
Avant d'être classé donc au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais là c'est presque 10 ans plus tard, voilà. 1998. Donc il y a une trace Jean-Paul II. Je faisais dans l'introduction un peu ce parallèle avec Thésée, en disant avec humour, c'est une forme de Thésée en marche. Bon, il n'y a aucun rapport avec le mouvement politique ou notre président de la République, mais cela dit quand même quelque chose de notre société. C'est vrai que Thésée, c'est comme un cœur spirituel en fait pour toute l'Europe aujourd'hui. Est-ce que c'est pareil, Compostelle, en fait, ça fait partie maintenant des grands incontournables qui disent ce qu'est l'Europe?
C'est un incontournable qui dit ce qu'est l'Europe, mais c'est surtout un incontournable qui dit maintenant ce qu'est le monde. Il y a plus de 150 nationalités chaque année qui arrivent à Saint-Jacques de Compostelle. Des Coréens, des Japonais, maintenant des Chinois. Tous les continents sont représentés. C'est un phénomène qui dépasse largement l'Europe, mais qui d'un autre côté fait connaître aux non-européens et au travers de la marche, c'est-à-dire lentement, l'Europe.
J'ai cru comprendre qu'en Asie, il y a même parfois des séries télé sur Saint-Jacques de Compostelle. C'est parfois comme ça que certains Asiatiques en entendent parler et que du coup, ça leur donne envie de venir marcher.
Il y a des séries télé, il y a des auteurs qui ont écrit leurs souvenirs et donc inciter les autres à partir.
Alors, selon l'Office donc, d'accueil des pèlerins à Saint-Jacques, je ne dirai pas le nom en espagnol, qui comptabilise donc le nombre de pèlerins qui arrivent à Saint-Jacques de Compostelle et puis probablement qui ont fait tamponner leur crédentiel, comme on dit. Il y aurait autant d'hommes que de femmes. Les nationalités, je les ai citées tout à l'heure, je les redis, donc dans l'ordre, espagnol, latino-américain, américain, anglais, voilà, les Français. Non, c'est pas ça. Alors, allez-y, corrigez. C'est ce que j'avais lu, mais je vous laisse corriger.
Après les Espagnols, les plus nombreux sont les Allemands.
D'accord.
Puis les Italiens.
D'accord.
Puis les Portugais. Puis les Nord-Américains et les Français. Et alors ensuite, toutes les autres nationalités.
Bah, vous faites bien de me reprendre, comme quoi il faut toujours aller à la source. Ce sur quoi je voulais m'arrêter, c'était sur les motivations. Alors là, on trouve en fait des sondages assez contradictoires. J'en ai trouvé qui disent que, on va dire, une moitié marche pour des raisons religieuses et une moitié pour des raisons culturelles. Et puis parfois, on en trouve certains qui insistent surtout sur la dimension culturelle. Quel est le vrai du faux? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet?
Là, vous me posez une colle, véritablement.
Parce qu'on ne sait pas, c'est ça ou...
Parce que quand le pèlerin part, en général, il ne sait pas pourquoi il part. Il a lu un article intéressant, il a connu des gens qui ont fait le pèlerinage. Il y a un appel du chemin, mais il aurait très difficile de dire la motivation. Il y en a qui partent pour des motivations véritablement religieuses, d'autres par curiosité. Ça a toujours existé. C'est en fait au but que le pèlerin sait pourquoi il est parti. C'est quand il arrive au but qu'il se rend compte réellement de ce qu'il cherchait. Alors, il y a le sportif qui simplement voulait se poser un défi. Est-ce que je suis capable de faire 1500 km à pied, par exemple, hein? Et il y a celui qui se rend compte qu'en fait, il est parti parce qu'il avait besoin d'un sens à sa vie, de réfléchir, de faire une coupure. Il y a beaucoup de conversions le long du chemin.
De conversion au christianisme, vous voulez dire?
De conversion, de gens, par exemple, qui avaient abandonné l'église et qui reviennent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir non plus des grenouilles de bénitier, hein, mais qui reviennent, qui retrouvent des choses importantes. Et puis, il y a des conversions de non-chrétiens au christianisme.
On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver avec bonheur, Adeline Rucquoy, en cette semaine de Radio Don pour continuer à parler de Compostelle. Je rappelle, chers auditeurs, donc c'est une semaine où on vous demande d'être particulièrement généreux. Si vous aimez Radio Présence, si vous souhaitez soutenir nos émissions ou une émission comme Vivante Église, eh bien cela ne peut pas se faire sans vous, sans votre soutien financier. Pour cela, un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 et je redonne entre autres le titre de votre dernier ouvrage, Adeline Rucquoy, Le Voyage à Compostelle, paru aux éditions Robert Laffont.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Compostelle, ce chemin extraordinaire, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Ce matin, donc, nous sommes avec Adeline Rucquoy, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire médiévale de la péninsule ibérique et membre donc du Comité international des experts du chemin de Saint-Jacques et auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, le dernier étant, enfin sur Compostelle, le dernier étant donc Le Voyage à Compostelle, paru aux éditions Robert Laffont. On a de la chance de vous avoir donc à l'occasion d'un passage à Toulouse pour des conférences que vous donniez la semaine dernière. Vous avez bien fait de me le préciser lors de la pause, pour être tout à fait raccord, parce que je sais qu'elles ont eu du succès. Alors, vous faites un détour par notre radio, c'est la semaine du Radio Don. On essaye d'être présent on va dire, à toutes les réalités, on va dire, religieuses et aussi spirituelles qui font la France d'aujourd'hui et une partie du Sud-Ouest. Je ne sais pas quel regard vous portez sur les radios chrétiennes que nous sommes ou sur une radio comme celle de Radio Présence.
En premier lieu, un regard admiratif, parce que c'est véritablement presque du bénévolat. Et je pense que c'est fondamental. C'est fondamental d'entretenir ces radios, de les garder, le message qu'elles transmettent, pas seulement dans le sens pour les croyants, mais dans l'ensemble, un message de valeur, de culture, de foi en l'homme.
Voilà, bah merci beaucoup. Et puis, je me suis fait tirer les oreilles par mon directeur. Je rappelle le numéro de téléphone, chers auditeurs, puisque pendant toute cette semaine, évidemment, on en appelle à votre générosité. Eh bien, n'hésitez pas à appeler au standard au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. On se fera un plaisir d'accueillir de votre générosité et puis que ça soit l'occasion aussi de discuter un petit peu et que vous nous fassiez des retours sur ce que vous aimez ou pas sur notre radio pour toujours mieux vous servir. On avance sur les chemins de Compostelle et puis on va profiter quand même de l'historienne que vous êtes pour nous faire donc une histoire un petit peu de Saint-Jacques de Compostelle. Si j'ai bien compris, tout a commencé d'une certaine manière autour d'un ermite qui s'appelait donc Pélage, en espagnol Pelayo, qui autour de l'an 800, enfin un petit peu plus tard, au début du 9e siècle, aurait découvert de manière miraculeuse donc le Saint-Corps de cet apôtre, Jacques le Majeur. Alors est-ce là une légende dorée? Qu'est-ce qu'on sait en fait de ce récit, de cette réalité, pardon?
Alors le récit, lui, on va commencer par le récit. Le récit, il n'est mis par écrit que 2 siècles et demi après la découverte du tombeau. Effectivement, ce récit, 2 siècles et demi après, à la fin du 11e siècle, nous dit qu'un ermite a vu des lumières au-dessus d'un bosquet, a averti l'évêque Théodemir, qui était à une 15 kilomètres de là, et que, arrivé, l'évêque a jeûné pendant 3 jours, il est entré dans le bosquet, et il a découvert le tombeau de Saint-Jacques, sur lequel il n'était évidemment pas écrit « J. Saint-Jacques », mais les textes nous disent que grâce à une révélation, c'est donc une question de foi, il a trouvé le tombeau de Saint-Jacques, dont on disait déjà depuis plusieurs siècles que c'était lui qui avait, après la Pentecôte, évangélisé l'Espagne. Donc c'est l'apôtre qui était déjà associé, disons, à l'Espagne. À l'époque même, on situe ça vers 830 à peu près, on n'a aucun texte en Espagne. Les premières sources que nous avons pour savoir que le tombeau a été découvert, qu'il est là, eh bien, ce sont des sources du nord des Pyrénées, dans des martyrologes, en fait, ces livres dans lesquels, pour chaque jour de l'année, on explique qui est le saint, généralement un martyr, une petite phrase très courte. Et au 25 juillet, les martyrologes, jusqu'alors, se contentaient de dire qu'il s'agissait du jour de Saint-Jacques, frère de Jean l'évangéliste, fils de Zébédée. Il n'a jamais été appelé dans les Écritures le majeur. On dit toujours le frère de Jean ou le fils de Zébédée, qui a été décapité par Hérode. Et puis tout à coup, à partir de 860, donc si vous voulez une 30aine d'années à peu près après la découverte du tombeau, à cette petite phrase est ajoutée ces 13 saints ossements transportés de Jérusalem en Galice ont été enterrés aux confins de l'Espagne et sont l'objet d'une grande vénération. C'est comme ça qu'on sait, par des textes écrits dans la France actuelle, que le tombeau a été découvert.
Alors, est-ce que vous pouvez en venir un tout petit peu plus aussi sur d'autres sources qui aident un petit peu à rentrer dans l'histoire de ce pèlerinage? J'ai cru comprendre qu'il y avait le livre des miracles aussi, où j'ai vu aussi la chronique de Turpin. Est-ce que vous pouvez revenir sur... il est important pour ceux aussi qui sont un petit peu réservés de montrer qu'il y a peut-être différentes sources concordantes ou... Qu'est-ce que ce livre des miracles sur lequel dont on parle de temps à autre?
Alors, quelques siècles donc après la découverte du tombeau, qui a tout de suite attiré des pèlerins, et même de très loin, au Xe siècle, on a des pèlerins qui arrivent d'Arménie. On a l'évêque du Puy, Godescalc, donc on s'aperçoit que la diffusion a été bonne. Mais un pèlerinage pour durer est obligé de se renouveler périodiquement. Et à la fin du XIe siècle, à Compostelle, on va faire toute une série de choses. D'abord construire une énorme, immense église romane, que l'on voit toujours, et fournir, si on peut dire, aux pèlerins toute une série de textes. Ça va être la base réellement de ce qu'on appelle la tradition compostellane. Et beaucoup de ces textes ont été réunis dans un seul livre, connu sous le nom de Codex Calixtinus, attribué au pape Calixte II. C'est pas lui qui l'a écrit, mais on lui attribue. Et qui comporte plusieurs parties, Alors une partie de sermons qui explique la spiritualité du pèlerinage, qui est Saint-Jacques, le pèlerinage, tous les symboles attachés à l'apôtre et au pèlerinage. Ensuite un livre avec 22 miracles de Saint-Jacques, c'est celui-là, le livre des miracles, qui va faire le bonheur des peintres, des sculpteurs, des enlumineurs qui vont représenter les miracles de Saint-Jacques. Puis un livre pour expliquer comment, martyrisé en Terre Sainte, on retrouve le corps de Saint-Jacques en Espagne. Donc la translation, comme on l'appelle, miraculeuse, embarque depuis la Terre Sainte jusqu'en Espagne.
Et le texte s'appelle ?
La translation.
La translation.
Hein, tout ça, ce sont des textes attribués au pape Calixte, qui n'en a pas écrit une ligne, étant donné que le livre a été compilé 25 ans après sa mort, au milieu du XIIe siècle.
Alors, sur le Moyen-Âge, on lit des choses, on va dire, contradictoires. Que ça a été en fait la période phare des pèlerinages, mais j'ai lu aussi dans le temps que j'avais pour préparer l'émission que en fait ça serait une vue de l'esprit et que ça n'aurait pas du tout été le moment où il y a eu le plus de pèlerinages. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce sujet ?
Qu'en fait il y a des grandes périodes de pèlerinage. Le XIIe siècle est une très grande période de pèlerinage. Beaucoup de pèlerins y vont, nous n'avons pas de chiffres hein, pour le Moyen-Âge comme on en a maintenant, encore qu'il faut se méfier des statistiques. Sauf que je vous dirais que l'immense église romane peut, qu'il y a des tribunes que l'on n'utilise plus, qu'on peut contenir dans la partie basse 2500 personnes.
Église romane qui a commencé à être construite au XIe siècle, c'est ça hein ?
En 1075, hein, et qui sera consacrée définitivement en 1211.
Donc 1100 personnes, c'est ça ?
2500
personnes, excusez-moi.
Qu'il y ait en même temps 2500 personnes qui puissent arriver à Compostelle prouve déjà que le pèlerinage était très important.
Et 2500 à l'époque, c'était beaucoup aussi.
Mais oui. Ensuite, au XVe siècle, de nouveau, parce que l'église compostellane a lancé, si on peut dire, l'annonce des années jubilaires quand le 25 juillet tombe un dimanche, à la fin du XIVe siècle. Donc au XVe siècle, toute l'Europe se précipite vers Compostelle.
Alors ça, repréciser ce que c'est, ces années jubilaires qui donnent lieu donc, à une indulgence et du coup qui était l'objet de pèlerinages. Ça demande peut-être quelques explications.
En fait, les années jubilaires ont été inventées à Rome en 1300 par le pape Boniface VIII. Pour attirer des pèlerins à qui on promettait s'ils allaient cette année-là à Rome, et ça va donc être la même chose à Compostelle à la fin du siècle, à partir de la fin du siècle, ça continue, et à Rome aussi tous les 25 ans, tous ceux qui iraient en pèlerinage au sanctuaire, qui en arrivant se confesseraient, qui communieraient, qui feraient une offrande aux saints, Saint Pierre à Rome ou Saint Jacques à Compostelle, tous leurs péchés leur étaient pardonnés.
C'est ce qu'on appelle les indulgences plénières.
C'est une indulgence plénière.
Et donc, du coup, c'est l'objet de...
Ça a attiré...
D'un afflux de pèlerins.
Un afflux énorme de pèlerins à Compostelle, puisque le 25 juillet tombe un dimanche à peu près 13 fois par siècle.
Alors, vous dites que donc au XIIe siècle, on voit qu'il y avait beaucoup de pèlerinages. Et c'est-à-dire que pendant le Moyen-Âge a été donc une période, on va dire, florissante de pèlerinage à Saint-Jacques ?
Oui, bien sûr, mais après aussi. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, en fait, le pèlerinage ne décline pas.
Alors justement, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, soi-disant qu'il y aurait eu une décrue entre le XVIe et la fin du XXe siècle. Vous dites que non.
La situation est devenue compliquée entre la France et l'Espagne. Il y a des guerres, on est d'accord. Ça devient plus ensuite entre l'Espagne et l'Angleterre. L'Europe est en train de se fermer à partir du XVIe siècle. On le voit très bien au travers des récits des pèlerins. Désormais, il faut se munir de papiers. Il faut avoir des autorisations de son évêque, des consuls, des échevins. Il faut avoir un billet de santé. Les prêtres doivent avoir un célébrette, comme on appelle, pour dire qu'ils ont le droit de dire la messe, qu'ils sont véritablement prêtres. on est en train de contrôler de plus en plus le passage. Pendant les guerres entre la France et l'Espagne, on se méfie des espions dans les deux sens. Donc ça devient beaucoup plus difficile, c'est vrai. Il y a aussi la dévotion moderne qui tend à vous garder chez vous. Il faut rester, prier chez soi, c'est ça. On reste, on ne va plus sur les chemins. Il y a le protestantisme au nord et les critiques, par exemple, d'Erasme sur les pèlerinages. Il n'a jamais parlé directement du pèlerinage de Compostelle, Erasme, de toute façon. Eh bien, malgré cela, malgré tous ces ennuis, on s'aperçoit qu'il y a énormément de pèlerins. Mais simplement, on ne les avait pas étudiés. On ne s'était pas plongé dans les archives des hôpitaux. Et on s'aperçoit qu'il y a des pèlerins qui laissent le récit de leur pèlerinage ou de leur itinéraire jusqu'en 1790, alors que la Révolution a éclaté un an plus tôt.
Alors dans votre livre, donc l'un de vos livres, Mille fois à Compostelle, vous me disiez en préparant l'émission que dans ce livre, donc vous avez entre autres, vous parlez entre autres donc du départ, cette manière que les gens avaient de partir. On n'a pas dit d'ailleurs que je crois que la tradition c'était de partir de chez soi, c'est ça, hein ?
Mais vous savez, actuellement on ne part pas de chez son voisin.
Oui, c'est vrai. Enfin, on peut partir du Puy-en-Velay, de Vézelay ou autre, mais...
Mais c'est exactement ce que faisait le pèlerin autrefois, c'est-à-dire qu'il partait de chez soi comme on fait maintenant. Et maintenant, on va prendre, par exemple, un train pour débuter son chemin quelque part. Le pèlerin au Moyen-Âge partait aussi de chez lui et se dépêchait de rejoindre le plus vite possible une des grandes voies. Parce que là, il était assuré de trouver du logement, de la nourriture, une plus grande sécurité, des gens qui passaient, des villes qui fermaient leurs portes la nuit, donc on était en sécurité. Ça revient au même.
Alors, pour revenir donc à cet ouvrage, vous me disiez qu'entre autres, donc, vous aviez étudié dans ce livre, enfin vous rapportiez de la manière dont se vivaient les retours, et qu'on allait jusqu'à retrouver en fait des gens qui étaient enterrés avec leur habit de pèlerin. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Alors au retour, le pèlerinage à Saint-Jacques ne se faisait généralement qu'une fois dans la vie. C'est rare que autrefois on les fait plusieurs fois. Mais ça, c'était très important. Et la dévotion à Saint-Jacques s'est répandue dans toute l'Europe. Partout, partout. Des hôtels à Saint-Jacques, des églises dédiées à Saint-Jacques, des villes qui fêtaient le 25 juillet. Et les anciens pèlerins se réunissaient en confrérie, qui parfois administraient un hôpital, qui s'occupaient évidemment des confrères, et beaucoup d'anciens pèlerins, qu'ils soient passés ou non par les confréries, demandèrent à être enterrés avec les attributs du pèlerin, de leur pèlerinage à Compostelle, avec la coquille, la besace parfois, le bourdon aussi. Et on retrouve beaucoup de tombes.
Alors si on finit donc ce grand balayage historique très rapide, faut-il fin du 19e siècle ou jusqu'au renouveau en tout cas qu'on a décrit, alors vous disiez que ça avait même commencé après-guerre, mais ou dans, particulièrement dans les années 80-90, est-ce qu'il y a des éléments particuliers à noter? On parle souvent de la période romantique où soi-disant il y en aurait eu moins de pèlerins.
La première moitié du 19e siècle, effectivement. Là, le pèlerinage à Saint-Jacques... Il n'est pas oublié, mais il est devenu un thème. Ah, au Moyen-Âge, on allait en pèlerinage à Saint-Jacques. Le romantisme le voit comme ça. On ne le fait plus à ce moment-là. Les campagnes de Napoléon n'ont pas vraiment aidé, évidemment. Puis la Révolution française, avant, qui avait interdit le passage au travers de la France. Mais à partir, on voit un timide recommencement, si on peut dire, au milieu du 19e siècle, qui va être aidé par la découverte des reliques de Saint-Jacques dans la cathédrale à la suite de fouilles entamées en 1879 sous l'égide de l'archevêque, le cardinal Pagliarico, par un chanoine de la cathédrale, qui en plus a écrit une histoire de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle en 11 volumes, avec toutes les annexes, toute la documentation, et qui aboutit à la fois l'étude des textes et les fouilles archéologiques où on a trouvé les restes de 3 squelettes masculins qui seraient ceux de Saint-Jacques et de ses 2 disciples Théodore et Athanase, ça aboutit à la bulle du pape Léon XIII, Deus Omnipotens, le 1er octobre 1884, où il authentifie les restes et enjoint les chrétiens de repartir à Compostelle.
Eh bien, quel panorama historique. Je rappelle le titre donc de deux de vos ouvrages. On va justement en parler dans la dernière partie de Saint-Jacques. Saint-Jacques, qu'on appelle aussi Saint-Jacques le Majeur, pour le distinguer de d'autres. On parlera de d'autres figures aussi, soit qui ont fait ce pèlerinage, soit qui ont jalonné son histoire. Je rappelle le titre de deux de vos livres. Donc le premier, dans l'ordre chronologique, « Mille fois à Compostelle », paru aux éditions Belles Lettres, c'était en 2014. Et le dernier, « Le voyage à Compostelle », paru aux éditions Robert Laffont. Et je rappelle à nos auditeurs que si on peut recevoir des invités comme Madame Adeline Rucquoy ce matin pour nous parler de Saint-Jacques de Compostelle avec autant de, on va dire, d'érudition, il faut soutenir et accompagner notre radio. Je vous rappelle un seul numéro de téléphone, 05 62 48 6300, 05 62 48 6300. On fait une courte pause et on vous retrouve.
Emmanuel Pella,
Compostelle, ce chemin extraordinaire, c'est pour rappel, pour ceux qui nous prendront en cours de route, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, notre invité, un invité de marque, Adeline Rucois, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire médiévale de la péninsule ibérique et membre du comité international des experts du chemin de Saint-Jacques, rien que cela, qui est avec nous ce matin, en cette semaine de Radio Don. Je vous le rappelle, si vous aimez Radio Présence, si vous écoutez cette radio, si vous appréciez nos émissions et entre autres l'émission Vivante Église, eh bien appelez-nous pour nous soutenir financièrement, particulièrement à l'occasion de cette semaine. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Avec vous dans cette dernière partie, on va parler de quelques grandes figures. Alors évidemment, on s'est un peu retenu jusque-là, il faut parler de Saint-Jacques tout court. Vous me disiez, en préparant l'émission, que aujourd'hui, ça ne va pas de soi, en fait, quand on parle de Saint-Jacques, il y a certains qui demandent, qui posent des questions un peu étranges, non ?
Oui, souvent on demande par exemple, ah Saint-Jacques, c'est celui qui a fait le chemin, puisqu'on dit le chemin de Saint-Jacques. Et on s'aperçoit qu'il est très mal connu.
C'est les Asiatiques en l'occurrence, sans vouloir être méchant, c'est-à-dire des gens Français. Qui sont loin des réalités culturelles européennes.
Des Français, des Italiens, des Belges, oui. Il y a une méconnaissance en fait, le chemin de Saint-Jacques, on a perdu l'idée du but, qui est le tombeau de Saint-Jacques, de cet apôtre, le frère de Jean, le fils de Zébédée, qui fait partie des quatre premiers appelés par le Christ.
Alors juste, je vous arrête juste deux secondes avant, parce que vous nous avez dit un peu plus tôt qu'à la fin du 19e siècle, donc on avait retrouvé des corps, et qu'à l'époque, on en avait déduit que c'était donc les reliques qui étaient conservées depuis le 12e siècle. Est-ce que depuis, on a fait... des datations, et est-ce que ce corps qui est gardé là-bas ou ces squelettes qu'on a trouvés, on les a un peu plus... Bref, est-ce qu'on sait davantage, est-ce qu'on peut certifier davantage que c'est bien Saint-Jacques, Jacques de Zébédée ou Jacques le Majeur, comme on dit ?
Même si on ouvrait de nouveau la chasse qui a été fermée en 1884...
Donc elle n'a pas été rouverte, d'accord.
Elle n'a pas été rouverte. Je pense qu'il serait difficile de trouver un cousin de Saint-Jacques pour faire une comparaison d'analyse ADN. Donc en fait, ça a toujours été une question de foi, le fait que Saint-Jacques, je vous avais dit, c'est une révélation qui dit que c'est le tombeau de Saint-Jacques. Donc même si les ossements découverts à la fin du 19e siècle, on peut les faire remonter, on sait qu'ils étaient déjà à Saint-Jacques au 12e siècle, on n'est pas allé plus loin.
On peut pas trouver d'autres manières de dater. Parfois, c'est les histoires de pollen, de...
Oui, mais la foi n'a peut-être pas forcément besoin de reposer sur une science exacte.
Alors, Jacques de Zébédée, dites-nous un peu plus de cet homme. Donc, frère de Jean, que nous disent les Écritures ? Rafraîchissez-nous la mémoire pour ceux qui ne sont pas forcément très, très familiers des apôtres.
Ben, les Écritures en font des pêcheurs sur le lac de Tibériade. Donc Jacques pêchait avec son père Zébédée et son frère Jean. De même qu'un petit peu plus loin, il y avait deux autres frères qui pêchaient dans une barque, Simon, qui deviendra Pierre, Saint-Pierre, et André, son frère. Et il s'agit des quatre premiers, appelés des quatre premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Ils ont suivi le Christ tout de suite et Pierre, Jacques et Jean sont toujours aux côtés du Christ dans les plus grands moments, comme par exemple la résurrection de la fille de Jaïr, comme la transfiguration, comme l'agonie du Christ dans le jardin des Oliviers. Ils sont là tous les trois. Donc c'est vraiment le cercle le plus intime, on va dire, du Christ.
Est-ce pour ça qu'on l'a appelé après Jacques le Majeur, du coup ou...
Non, c'est parce qu'il y avait un Jacques le Mineur, simplement. Hein, mais lui, il n'est jamais appelé comme ça, il est appelé fils de Zébédée ou frère de Jean. Et Jacques, ce Jacques-là, eh bien, il est le seul apôtre dont le martyr soit inscrit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Hérode a fait décapiter Jacques, frère de Jean.
J'ai cru comprendre aussi qu'on savait de lui, donc ce pêcheur juif, donc qui pêchait sur le lac de Tibériade, que c'était un homme de tempérament. Il y a un passage dans l'Écriture qui dit de lui et de son frère, ce sont les fils du tonnerre. Je crois même que c'est Jésus donc, qui dit cela.
Boanerges, il les a appelés,
voilà.
Oui.
Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ?
À mon avis, ils avaient l'âge du Christ. Donc ce sont des jeunes, ils sont évidemment impétueux. À un moment donné, il y a un village qui a refusé de les recevoir. Et ils demandent à Jésus s'il faut faire tomber la foudre du ciel sur le village pour détruire le village. Hein, on voit qu'ils se lancent un petit peu. Ou alors ils demandent carrément, ou font demander par leur mère, ça dépend des évangiles, que quand le Christ sera dans son royaume, ils veulent s'asseoir à sa droite et à sa gauche.
Voilà, c'est souvent une un passage de l'Écriture qui peut faire sourire. Est-ce que juste pour finir sur Saint-Jacques, probablement que c'est difficile de répondre pour l'historienne que vous êtes, mais quelque part, est-ce qu'on peut rajouter un peu une autre histoire de Saint-Jacques qui est celle que dessine le chemin ? J'entends par là que souvent, quand on discute avec des pèlerins de Saint-Jacques, au fil des semaines, pour ceux qui marchent longtemps, ils disent souvent, en fait, Saint-Jacques, ça devient quelqu'un pour nous, c'est comme il nous accompagne, c'est comme un pèlerin invisible sur ce chemin. Alors là, c'est peut-être plus à la femme de foi que je m'adresse, mais qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur ce sujet ?
Mais qu'ils le disent souvent, effectivement, les pèlerins. À partir du XIIe siècle, Saint-Jacques va être représenté avec les habits du pèlerin. C'est le seul apôtre qui abandonne sa tunique, si on peut dire, et qui va être coiffé d'un chapeau avec des coquilles Saint-Jacques, porter une besace, partir avec son bourdon. Il devient donc un pèlerin parmi les pèlerins, mais il est en même temps le pèlerin vers lequel marchent les pèlerins. Et il est le pèlerin qui accueille les pèlerins. Le pèlerin qui, au Moyen-Âge, allait à Jérusalem, était pris en charge par les franciscains, puisque Jérusalem était entre les mains des musulmans, et on faisait faire un tour, une espèce de visite guidée de Jérusalem. Le pèlerin qui allait à Rome, il y avait le pape, il y avait les cardinaux, il y avait tous les évêques qui allaient faire des visites ad limina. Mais vous allez à Compostelle, aussi bien au Moyen-Âge que maintenant, il n'y a que Saint-Jacques. Vous n'êtes pas accueilli par les chanoines, vous n'êtes pas accueilli par l'archevêque. Il n'y a que la statue de Saint-Jacques qui vous attend derrière le maître-autel et à qui le pèlerin va faire l'accolade, l'abrazo, pour remercier le pèlerin qui l'a amené jusque-là. Un frère, si vous voulez. Et je pense que ça, c'est très important dans l'histoire du pèlerinage à Compostelle.
Et ça en fait des accolades du coup. Alors il y a un autre personnage dont on s'était dit qu'on allait parler, qui justement a fait une accolade à Saint-Jacques, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui, avec son épouse Yvonne, se sont rendus à Saint-Jacques de Compostelle. J'ai trouvé un rapide récit, je ne sais pas si c'était un extrait d'un article de presse, où ces illustres visiteurs sont accueillis par une délégation du conseil municipal dirigée vers la chapelle des reliques, où ils reçoivent des explications en français. Et puis, derrière, le général de Gaulle fait une accolade aux pèlerins à Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre et pourquoi vous vouliez en parler ?
Mais c'est un personnage, on ne sait pas qu'en fait il avait une dévotion, le général de Gaulle, à Saint-Jacques, et il a attendu sa démission, hein, c'est entre le moment où il cesse d'être président de la République et les quelques mois avant sa mort, il a voulu aller là comme simple citoyen, pèlerin à ce moment-là, il est allé en voiture, hein, il n'est pas allé à pied, à Saint-Jacques, faire la dévotion traditionnelle des pèlerins de Saint-Jacques, c'est dans la presse à l'époque de Compostelle. Alors, il a vu des reliques des reliquaires qui ont été données par des pèlerins français en particulier. C'est ça la visite qu'on lui a fait faire. Et il a fait l'accolade.
Qu'est-ce que ça dit d'important pour, selon vous ? C'est quoi ? Ça représente un peu quand même une mémoire chrétienne de la France ou...
Oui, je pense que c'est important. Hein, on parle beaucoup de la visite du pape, on parle un peu moins de la visite du général de Gaulle. On a l'impression que sa vie n'a été que politique et c'était un homme de foi.
Alors, vous vouliez finir, dans le temps qui nous reste, par nous parler d'une autre figure. C'est une figure du sud-ouest, Béranger de Landors.
Oui, Béranger de Landors. Il faut absolument qu'on revendique cet homme qui était né... du côté de Salmiège, au sud de Rodez, à la fin du XIIIe siècle, qui est devenu dominicain à Toulouse, ici, et qui a continué, fait une brillante carrière, puisqu'il est devenu le maître général de l'ordre des dominicains. Il a même été légat du pape, c'est le moment où les papes commencent à s'installer à Avignon. Et je crois qu'il était très content d'être dans le sud-ouest de la France, entre Avignon et Toulouse. Et puis voilà que le pape l'a nommé archevêque de Compostelle en 1317. Il a d'abord refusé, il a été obligé d'accepter, il est parti en 1318. La ville de Compostelle lui a fermé ses portes pendant 2 ans. Mais à partir du moment où il a pu entrer dans son siège, en 1320, donc...
Juste en 2 mots, pourquoi est-ce qu'on lui fermait les portes comme ça ?
Parce que l'archevêque, l'évêque de Compostelle, était en même temps le seigneur de la ville et les habitants voulaient être indépendants et ne dépendre que du roi. Donc ils ont essayé de faire... ils n'ont pas gagné. Et donc l'archevêque, en 1320, entre solennellement dans la ville. Il va être archevêque pendant 10 ans et c'est l'un des plus prestigieux archevêque de Saint-Jacques de Compostelle. On lui doit une tour qu'on appelle la Berenguela, Bérangère, puisqu'il s'appelait Béranger. On lui doit un splendide reliquaire, buste reliquaire pour un crâne de Saint-Jacques le Mineur dans ce cas-là. Il a fait faire 3 copies du texte dont nous parlions, le Codex Calixtinus. Il a fait des synodes, mais il n'a jamais pardonné aux habitants de Compostelle de ne pas l'avoir accueilli, et il a exigé que son corps soit envoyé après sa mort, ainsi que sa bibliothèque, au couvent des Dominicains de Rodez.
Eh ben, merci beaucoup Adeline Rucquoy d'être venue au micro de Vivante Église à l'occasion de l'un de vos passages dans la région. Vous étiez invitée donc pour des conférences la semaine dernière pour l'ACIR, donc l'Agence des Chemins de Compostelle. C'est en tout cas comme ça qui se présente. On peut donner un site internet, www.chemin-compostelle.com, chemin avec un S, chemin-compostelle.com. Je vous rappelle que c'est notre radio don, qu'on a besoin de votre soutien. Cette radio, c'est la vôtre, elle vit de vos dons en grande partie. Et si on peut faire des bonnes émissions comme ça, si vous voulez qu'on continue à en faire toujours de plus bonnes, eh bien on a besoin de votre soutien. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Je redonne aussi le titre de 2 de vos ouvrages, Adeline Rucquoy, donc le dernier, Le Voyage à Compostelle, avec ce sous-titre du 10e au 20e siècle, c'est une galerie de récits de pèlerins, paru aux éditions Robert Laffont, et 1000 fois à Compostelle, paru aux éditions Belles Lettres. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.